contre matière grise.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est le groupe d'Amnesty International Évreux qui reprend l'antenne pour son heure d'actualité sur les droits humains et sur les campagnes d'Amnesty par rapport à l'actualité des droits humains, comme on vous le dit à chaque fois. Mais donc, vous le savez maintenant, comme ça fait 4 ans. 4 ans, ça fait 4 ans
oui,
que
mais
fait ça.
Oui, mais ça change bon. Tout le temps.
Oui, ça change tout le temps, bien sûr. Bien sûr. Ce soir, avec moi, autour du micro, il y a Edith.
Bonsoir.
Il y a Ronan qui est derrière ses manettes.
Bonsoir.
Et puis Ronan, tu vas me présenter à nouveau quand même, parce que j'aime pas m'appeler moi-même.
Donc il y a Didier qui est au micro.
Oh Didier, allez, on l'a reconnu.
Voilà, et il y a Claire-Lise qui doit venir, mais Claire-Lise a des occupations professionnelles très prenantes et elle ne sait pas si elle pourrait être avec nous ce soir. Sinon, elle nous rattrapera en cours de route, pas de souci. Ce soir, on avait, je vais vous en dire un petit mot tout de suite. On va commencer par ça et puis on va vous parler aussi de notre actualité locale qui est très chargée pour le mois qui vient. On vous en dira un petit mot en début d'émission et on y reviendra à la fin en piqûre de rappel. Donc on va vous dire un petit mot tout de suite sur la situation du Burundi. On espérait avoir ce soir un témoignage live, comme on dit à la radio, c'est-à-dire en direct avec, grâce à notre ami. Dont je vais vous rappeler le nom de notre ami Léonard, qui est président de l'association L'Abri, qu'on connaît bien sûr à Évreux, et qui est lui-même originaire du Burundi, et sa famille est dans une situation, enfin ses proches sont dans une situation très délicate au Burundi, suite aux événements dont vous avez entendu parler dans les médias. Donc on devait avoir son témoignage ou de quelqu'un de sa famille, malheureusement ils ont dû annuler en dernière minute, donc ils ne pourront pas être avec nous, mais on pense bien à eux, c'est un petit coucou qu'on leur fait en passant. Et en même temps, je vais vous dire quelques mots sur la situation du Burundi.
Explique un petit peu le Burundi. Voilà. On en entend parler, mais pas énormément.
Donc, le Burundi est en état pas de guerre civile, c'est un bien grand mot, mais d'instabilité très, très marquée, avec un certain nombre d'exactions fondamentales sur les droits de l'homme, la police qui tire à balles réelles sur les manifestants, des cas visiblement qui sont en train d'être inquiétés par Amnesty, d'utilisation de la torture par rapport aussi aux forces d'autorité, la police et autres, ou l'armée, de cas de torture. Alors, tout ça se tourne autour du fait...
Pourtant, ça avait l'air d'être tranquille à un moment, le Burundi.
Oui, ça avait l'air d'être tranquille. Oui. Le Burundi, c'est un État qui est voisin du Rwanda. Le Rwanda, ça vous rappelle forcément des choses. Et qui est peuplé par des populations Hutu et Tutsi, comme le Rwanda. Et là, en ce moment, c'est en train de déraper pour d'autres raisons. C'est parce que le président sortant, qui s'appelle Pierre Nkurunziza, qui devait ne faire que deux mandats, la Constitution précise que le président ne peut faire que deux mandats consécutifs, est en train de postuler pour un troisième mandat, ce qui est en désaccord avec ce qu'on appelle les accords d'Arusha qui avaient été signés il y a pas mal d'années. Alors Ronan, comme tu t'es renseigné, c'est quoi les accords d'Arusha?
C'est les accords qui ont été faits avant, par rapport au Rwanda.
Oui. C'est des accords en fait, qui devaient amener la stabilité et la paix dans la région. C'était avant le génocide qui a eu lieu en Rwanda en 1994.
Tu m'as demandé de trouver où c'était, alors j'ai cherché, c'était en Tanzanie.
En Tanzanie, voilà. Mais... Et il y avait tout un certain nombre d'accords qui ont été signés entre les deux pays et entre les différentes communautés des deux pays pour garantir la paix. Et entre autres, dans les accords concernant le Burundi, il était précisé que les présidents élus ne devaient pas faire plus de deux mandats. Et le président sortant va en faire un troisième.
C'est pas bien ça.
Qui, bien sûr, a provoqué un certain nombre de manifestations de l'opposition. Et c'est ces manifestations qui sont réprimées à l'heure actuelle avec force répression et force exaction par les autorités en place. Bon, il y a eu un simili coup d'État là, dont j'ai entendu parler.
C'est au moment qu'il est parti qu'il y a
le
coup d'État. Oui.
Voilà. Le président est parti, l'armée avait plus ou moins pris le pouvoir et après a été destitué à son tour. Le président est revenu. Bref. Là non plus, on n'a pas toutes les informations sur les tenants et les aboutissants et qui dit vrai et qui dit faux. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, la répression est extrêmement féroce d'après ce qu'on peut savoir. Et d'après, encore une fois, ce que peut savoir la famille de Léonard, dont une partie habite toujours au Burundi. Et le point de vue d'Amnesty est très simple hein, dans tous ces cas-là, c'est que quelle que soit la situation, quels que soient les manifestants et quelle que soit l'opposition ou non par rapport au président sortant, dans tous les cas, l'État doit garantir la sécurité des citoyens et il est inadmissible effectivement que l'État lui-même se livre à des exactions comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et Amnesty dit dans son communiqué, il y en a plusieurs, il y en a un qui est paru le 30 avril, dont je vais vous lire un petit extrait. Le fait que les autorités ne soient même pas capables de garantir les droits des citoyens à la vie et à la sécurité est un signe inquiétant qui fait craindre de graves violations des droits humains. La police et le gouvernement burundais doivent respecter leurs obligations relatives aux manifestations pacifiques. Voilà. Donc, tout ce qu'on réclame, effectivement, c'est que les accords d'Arusha soient respectés, que chacun joue le jeu, effectivement, par rapport aux accords qu'il avait signés, et qu'enfin, les élections puissent se tenir dans un cadre légal et démocratique normal, et que le gouvernement arrête une répression aveugle par rapport à l'opposition. En gros, on peut résumer
voilà,
ça comme ça.
Voilà, et puis moi, ce que je peux peut-être ajouter, parce que je l'ai entendu aussi, c'est qu'il y a une milice, donc il n'y a pas que l'armée et le gouvernement, une milice de jeunes qui soutient le président actuel, alors c'est moi qui vais m'y laisser, Imbonerakure, et cette milice...
Ça elle, fait un peu elle, latin.
Voilà, elle fait la loi, elle va chez les gens, elle les tue et elle terrorise la population actuellement sous couvert de soutenir le président actuel. Voilà.
Bon, ce qu'il faudrait, c'est une des craintes qu'on a au niveau d'Amnesty, c'est qu'il ne faudrait pas que la situation dérape comme elle a dérapé de façon dramatique au Rwanda, enfin, pire que dramatique au Rwanda avec le génocide en 94 et que les différentes populations, effectivement, que ça devient une opposition armée et meurtrière entre différentes composantes de la population, sachant qu'en fait, il n'y a aucune raison pour que ces gens-là, effectivement, ne continuent pas à vivre en bonne harmonie, comme c'était le cas jusqu'à présent.
Et sachant que c'est les médias qui sont attaqués aussi, c'est-à-dire que... Plus de télé, plus de radio libre, donc plus d'informations et la terreur.
Voilà, donc on pense bien à tous les ressortissants burundais, d'Evreux. Donc un petit clin d'œil à Léonard et puis bon si
peut-être
si,
qu'on aura un témoignage
voilà si les gens d'Evreux enfin voilà. les ressortissants d'Evreux du Burundi veulent témoigner, encore une fois je leur avais dit par téléphone qu'on était à leur écoute et donc s'ils veulent témoigner même entre les deux émissions on pourra en diffuser un extrait à la prochaine émission, celle du mois de juin, et puis de toute façon et envoyer des informations à Amnesty puisque eux-mêmes ont des sources d'informations extrêmement intéressantes sur place via les membres de leur famille qui y sont toujours. Voilà, donc ça c'était la première chose. Deuxième chose, c'est notre actualité locale. Donc, on va vous en parler tout de suite. On a le. Oui, on va parler aussi.
On parle avec des gestes.
Voilà, on parle avec des gestes pour se rappeler effectivement notre conducteur. Mais notre actualité étant locale, l'actualité locale étant très chargée, je voulais vous en dire un petit mot. Donc, on a après-demain à Rouen le Forum des droits
humains. Après-demain, c'est jeudi.
C'est jeudi.
Le 28.
Le Forum des droits humains, donc c'est à Rouen. C'est organisé par la région. Je suis en train de rechercher l'ordre du jour.
C'est à la Maison des Universités.
Voilà, que j'avais sorti, qui est ici.
À Mont-Saint-Aignan.
C'est donc à la Maison des Universités à Mont-Saint-Aignan. C'est toute la journée de 9h30 à 17h30. Et le thème, c'est la dignité en question, dignité et droits humains. Donc, il y a 6 intervenants, philosophes, membres d'associations à Tête Dakar Monde, philosophes, professeurs d'université, etc. Je ne vous en fais pas la liste. Hein, de toute façon, elle figure dans les médias déjà à l'heure actuelle. Et donc, n'hésitez pas à venir si vous êtes libre. L'entrée est gratuite, bien sûr. À la Maison de l'université, c'est 2 places Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan, de 9h30 à 17h30, et c'est jeudi qui vient, donc après-demain. Donc on y sera avec les groupes de Rouen, et c'est une journée qui promet d'être passionnante en débat et en intervention sur la dignité humaine et les droits humains. Autre actualité locale, j'ai perdu ma feuille, où j'avais noté l'actualité, voilà, elle est là.
Je fais le ménage.
Voilà. Donc on a le 1er juin, c'est la semaine prochaine, un débat qui est organisé par, enfin, au collabore du moins, Amnesty International Louviers,
le groupe de
Louviers-Val-de-Reuil, qui participe à une invitation, c'est pas eux qui organisent, mais participe à une invitation qui vient de la ville de Louviers et de Monsieur le maire, qui est axée sur la liberté d'expression, et qui s'appelle « Notre liberté d'expression est-elle en danger ?». Alors, cette soirée est composée de la façon suivante, ça aura lieu entre 19h et 22h, en gros, au cinéma Le Grand Forum à Louviers, donc c'est juste à côté. La liberté d'expression est-elle en danger? C'est animé par quelqu'un que les gens connaissent assez bien en France, qui s'appelle Jean-Marie Cavada, qui était un ancien permanent de la télévision et de France Inter, si je ne m'abuse, qui maintenant est un homme politique, qui fait partie du mouvement européen et qui est au
qui est député européen,
qui a l'UDI, je crois, en fait, quelque chose comme ça, et qui va intervenir sur ce thème. Et pour Amnesty, il y aura la présence de notre présidente, de Geneviève Garrigos, qui est la présidente d'Amnesty International de France, qui va participer au débat. Ça se déroule en deux temps. À 19h, il y a la projection d'un documentaire qui s'appelle Fini de rire. Ce sont des dessinateurs de presse qui racontent la liberté d'expression. Le film, on ne l'a pas vu. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu. Donc, ce sera à découvrir. Et après, à partir de 20h, donc, il y a la conférence débat co-animée par Jean-Marie Cavada et Geneviève Garrigos. Et après, à 21h30, le verre de l'amitié. Donc, une soirée passionnante, à mon avis, on y sera aussi.
Entrée libre.
Entrée libre aussi,
et
bien
sûr. Et
puis,
Louvier, allez, c'est une demi-heure.
Voilà.
Même
bon, de toute façon, le principe actif, on le capte à Louvier. Moi, j'ai testé, on capte sans problème principe actif à Louvier.
Hein, ah, je crois que ça s'arrêtait avant Louvier, tu vois.
Aucun problème. Moi,
jusqu'à Louvier. C'est bon.
Avec mon autoradio, j'ai testé plusieurs fois sur place, on capte très bien la radio. Donc, voilà. Donc, c'est lundi 1er juin. Donc, deuxième rencontre. Là, on aura encore une actualité locale qui sera le samedi 20 juin.
Alors,
une action Syrie. Voilà, on ne va pas vous en dire trop.
On va vous en parler aussi après. Hein.
On ne va pas vous en dire trop tout de suite, mais on va y revenir tout à l'heure. Il y a un gros dossier sur la Syrie. Et enfin, notre actualité locale se terminera au mois de juin par le 27
Le 26
et le 27 juin.
Qu'est-ce qui se passe chaque année le 26 et le 27
juin?
Ça va faire 30 et quelques années, je crois.
Oui, tout à fait.
C'est le
Festival Rock.
Rock.
Donc, on y sera comme tous les ans. On espère préparer une petite surprise.
Même pas au courant.
C'est pas encore bien calé, mais on espère préparer une petite surprise. Voilà, on vous en dit pas plus. Et donc, on sera au Festival Rock. Ce qui veut dire que là, on a moins de temps.
On travaille beaucoup.
On a 4 rendez-vous publics, ce qui est quand même pas mal. Pas tout seul, avec tous les autres groupes de la région et les groupes copains et les groupes amis, enfin, etc. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, on va commencer par...
Actualité française.
On va passer au débat et au gros dossier.
Bah, ça concerne un petit peu à ce que tu as dit tout à l'heure, à ce qu'il va avoir à Louvier lundi prochain.
Voilà, ça concerne indirectement la liberté d'expression. C'est la loi qui a été votée très récemment sur les contrôles sur Internet et la liberté. C'est Renan qui va entamer le débat et après, on va vous lire. C'est tiré de la chronique, le mensuel d'Amnesty France, dont on vous parle tous les mois.
Loi liberticide. Un projet de loi sur le renseignement devant l'Assemblée en avril. Une loi antiterroriste votée en novembre dernier. L'arsenal législatif sécuritaire se renforce en France sans que l'opinion publique ne s'émeuve. Ancien juge d'instruction et directeur scientifique des cahiers de la justice, Denis Salas s'inquiète d'une législation à la Orwell, sacrifiant des libertés publiques à l'illusion de la sécurité. Le gouvernement parie sur une politique zéro risque. En réalité, c'est un mythe.
Donc le juge a été interviewé par Amnesty. Donc première question. C'est Renan qui posait
Renan
la question.
Qui commence. Il se bat.
Le projet de loi sur le renseignement donnant avantage de pouvoir de surveillance aux services est débattu à l'Assemblée depuis le 13 avril. Que pensez-vous de ce texte?
Bon, moi, je prends ma voix, mais c'est pour Denis Salas.
C'est un monsieur qui parle.
C'est comme ça. Alors, ce projet de loi à l'initiative du député socialiste Jean-Jacques Urvoas vise, avant toute intervention de la justice, a doté de moyens supplémentaires les services de renseignement français pour mieux prévenir le terrorisme. Il leur permet notamment d'avoir recours à de nouvelles technologies, balises de géolocalisation des véhicules, logiciels espions pour connaître les touches frappées sur un clavier, interceptions téléphoniques, pose de micro et caméra partout où ces services l'estiment nécessaire. Ce qui m'inquiète, c'est que cette loi est fondée sur l'hypothèse de la dangerosité d'un individu. Or, la notion de dangerosité demeure dans le domaine du virtuel. Apparaît ainsi la notion de délinquant potentiel, quelqu'un qui ne commet pas d'acte objectif, mais sur lequel pèse une suspicion. La moindre hypothèse d'enquête, même la plus indéterminée, pourrait être testée avec des moyens très intrusifs.
Le Premier ministre Manuel Valls a insisté sur le fait que ce texte encadre des pratiques déjà largement utilisées par les services.
Oui, en réalité, ce qu'autorise ce projet se faisait, mais il y a des innovations technologiques. Prenons l'exemple de cet outil orwellien dont parle le texte, l'algorithme de détection des signaux faibles, réservé au cas de terrorisme. C'est une sorte de boîte noire qui va mouliner les connexions de votre ordinateur ou de votre smartphone. Toutes les données, lieux, destinations seront analysées afin de détecter des signaux pouvant indiquer que vous pourriez passer à l'acte. On retrouve cette virtualité dont je parlais. La police peut alors vous arrêter et vous maintenir en garde à vue pendant au moins 96 heures. Il faut que les gens se rendent compte de ce que cela signifie. Perte de la liberté, mais aussi du contact avec vos proches. Doute sur votre culpabilité, obrobre social. Anticiper ainsi un acte de terrorisme comporte un risque majeur d'erreur aux conséquences irréversibles. On sacrifie la liberté avec des simples soupçons. Le gouvernement parie sur une politique zéro risque, alors qu'en réalité, c'est un mythe.
Comment seront contrôlées ces pratiques de surveillance ?
Ça, c'est un autre aspect préoccupant du projet, même si cet encadrement est indispensable. Le législateur veut créer une commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, composée de 9 membres, issus du Conseil d'État, de la Cour de cassation, du Parlement. En principe, cette commission devra être consultée pour avis avant toute surveillance. Mais en cas d'urgence, le Premier ministre peut passer outre et se contenter d'informer la commission. Une autorité administrative peut-elle être indépendante quand elle est contrôlée par le Premier ministre ? Il y a une contradiction dans les termes. N'est-ce pas le fauné d'une instance de contrôle confirmant des mesures qui lui sont soumises ? Les interceptions d'écoute téléphonique consistent en des liasses de papier à parcourir. Est-ce que ces hauts magistrats vont passer leur temps à lire ces documents ? Et sur quels critères contrôler l'atteinte aux intérêts essentiels de la politique étrangère de la France, entre guillemets ? Quels sont les moyens de ce et le caractère opératoire du contrôle ? Quant à la masse de données personnelles recueillies par ces différents types de techniques, où et combien de temps va-t-on les stocker ? Et qui y aura accès ?
Une loi antiterroriste a été votée le 13 novembre 2014, avant les attentats de janvier 2015. Cette loi vous semble-t-elle respecter l'équilibre entre le besoin de sécurité et le respect des libertés publiques ?
Alors la loi du 13 novembre a été votée à l'unanimité par le Parlement. Il y a eu accord entre groupes de droite et de gauche pour ne pas saisir le Conseil constitutionnel. Nous sommes dans un imaginaire collectif de la guerre contre le terrorisme. Donc, il devient de plus en plus difficile d'émettre la moindre réserve. D'où cette absence de réaction de l'opinion et l'inhibition des parlementaires donnant l'impression d'un accord implicite de la masse politique, de la classe politique, pour mettre entre parenthèses l'état de droit. Cette volonté implicite de lâcher du lest du côté des libertés ne date pas d'hier. À la suite des attentats du 7, 8 et 9 janvier, s'ouvre une fenêtre d'opportunité pour faire passer des textes au Parlement, donnant de larges pouvoirs à l'administration. La loi de 2014 incriminait déjà la notion d'entreprise individuelle de terrorisme afin d'interpeller des loups solitaires. Mais par quel acte saisir cette tendance à la radicalisation d'un individu ? On veut aller tellement loin en amont qu'on saisit une poussière d'actes interprétés comme menaçants. C'est cette marge d'interprétation très large qui m'inquiète. On veut favoriser le coup de pied dans la fourmilière pour déstabiliser les réseaux, mais sans mesurer les atteintes à la liberté.
Dans cette loi de novembre 2014, l'apologie du terrorisme a été érigée en délit et insérée dans le code pénal alors qu'elle relevait jusqu'à lors du code de la presse de 1881.
Cette pénalisation représente un vrai risque pour la liberté d'expression. L'apologie du terrorisme est désormais passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans et 75 000 euros d'amende. 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en ligne. Avant, ceux qui relevaient des abus de la liberté d'expression tombaient sur le coup de peines plus symboliques et donnaient lieu à un débat circonstancié. La détention provisoire était exclue. Le texte permet de juger ces affaires en comparution immédiate sans un examen individualisé de la situation pour comprendre avant de punir. C'est ainsi que des individus criant dans la rue 100% Kouachi se retrouvent condamnés à des peines de prison ferme pour apologie du terrorisme. La loi du 13 novembre et le projet de loi sur le renseignement font système. Ils se rapprochent du Patriot Act américain par la concentration des moyens d'action donnés à l'administration. Ils s'en séparent par des contrôles prévus, même si je les trouve trop administratifs à mon sens.
Une autorité administrative peut désormais interdire la sortie du territoire pour les suspects candidats au djihad et bloquer les contenus de cet Internet sans passer par l'autorité judiciaire. Quelles sont dès lors les garanties ?
J'aurais préféré qu'on mette en place un juge garant des libertés publiques. Or, dans la loi de novembre 2014, le gouvernement a choisi un juge administratif. Sans ignorer les mérites de cette juridiction, je souligne que sa procédure est écrite, qu'il n'y a pas de débat. Juger ainsi, dit-on souvent, c'est encore administrer. J'ai peur, je crains que ce type de contrôle soit uniquement formel, alors que le juge pénal a l'habitude de ces procédures dont il est le garant constitutionnel. D'ailleurs, le syndicat de la magistrature a déposé un recours contre les mesures relatives à l'interdiction de territoire. Par ailleurs, pour connaître les motifs d'interdiction du territoire émis par la police, encore faut-il avoir accès au dossier sans que ne s'oppose le secret défense.
Le droit n'a-t-il pas toujours une mesure de retard, notamment quand la régulation d'Internet, sachant que certains sites sont très actifs dans le recrutement des djihadistes ?
Et oui, nombre des fournisseurs d'accès se trouvent dans des pays comme les États-Unis ou les pays nordiques, où il y a une grande tolérance pour la liberté d'expression. Internet est un réseau fluide, un monde liquide qui échappe à toute saisie. Il faudrait une réglementation mondiale de la toile pour que cela soit efficace.
Quel est le rôle de l'Union européenne sur ces questions sécuritaires ?
Alors en Europe, la plupart des démocraties européennes se dotent d'un même type de dispositif sécuritaire contre le terrorisme. Heureusement, la Cour européenne des droits de l'homme reste un recours. Certes, un peu lointain et tardif, mais malgré tout présent dans les têtes des juristes et des policiers. La Cour européenne des droits de l'homme laisse cependant une large marge d'appréciation aux États pour leur lutte contre le terrorisme. En l'état actuel, certains pays comme l'Allemagne sont très stricts pour faire respecter l'état de droit, comme le montre la jurisprudence de la Cour constitutionnelle depuis les attentats du 11 septembre.
Comment juger de l'efficacité de cet arsenal législatif ?
La police ne donne pas d'éléments d'information lorsqu'un attentat a été déjoué. Nous pouvons donc difficilement évaluer l'impact de ces lois. Pour les médias, c'est un non-événement. Et pour la police, il est couvert par le secret. En revanche, on peut mesurer aisément l'ampleur des restrictions apportées à nos libertés. Le paradoxe est que nous acceptons ces atteintes graves, qui seront sans doute irréversibles, alors que nous ne connaîtrons jamais vraiment leur efficacité.
Bien, ben voilà, je pense que c'est un bon résumé sur la question, mais si ça demandait effectivement un petit peu d'attention. Enfin, Edith a prêté sa voix bien volontiers à ce juge. Et donc, je crois qu'il faut rester extrêmement vigilant. On rappelle que la loi, pour l'instant, est, si je ne m'abuse, entre les mains du Sénat.
Tout à fait.
Et qu'Amnesty continue ses pressions pour, effectivement, que les différents points dont on vous a parlé, qui sont des points extrêmement inquiétants sur nos propres libertés et notre propre vie privée. C'est les deux points.
Et l'anticipation et du risque de la personne.
Voilà, exactement. Oui, on peut être maintenant soupçonné d'avoir envie de commettre un délit, ce qui est quand même effectivement quelque chose qui est assez, en termes de droit, qui est quand même assez extraordinaire. Le fait d'avoir envie de créer, de commettre un délit, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait discutable.
Et effectivement, ce que dit aussi ce juriste, c'est qui va gérer toutes ces données ?
Bien sûr.
Dans quelles mains ? Jusqu'où ? Combien de temps ? L'oubli, pas l'oubli, s'ils se sont trompés ? Et est-ce vraiment efficace ?
Bien sûr. Donc l'action continue. N'hésitez pas à aller sur le site d'Amnesty, www.amnesty.fr, pour vous informer de l'évolution de nos pressions.
Et on n'est pas seul, hein. Il n'y a pas qu'Amnesty. Hein. Oui, voilà, il y a d'autres organisations des droits humains, il y a des individuels.
Il y a la Quadrature du Net qui est avec nous, il y a la Fédération internationale des droits de l'homme, enfin la Ligue des droits de l'homme qui est avec nous, le syndicat de la magistrature, enfin il y a un tas de gens, et des partis politiques, enfin, etc., qui sont avec nous pour faire pression. Et encore une fois, c'est extrêmement inquiétant sous réserve de sécurité. Ça me rappelle la phrase de, je crois que c'était Benjamin Franklin qui avait dit ça, ancien cofondateur des États-Unis, enfin un des premiers présidents, qui avait dit, alors je vous cite de mémoire, je ne vous garantis pas le mot à mot, mais
un peuple
qui sacrifie sa liberté pour garantir sa sécurité n'aura en fin de compte ni l'une ni l'autre.
Voilà.
Donc voilà, je pense que c'était prémonitoire, mais c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et faut aussi, si vous avez l'occasion, on en a peut-être déjà parlé à la dernière émission, oui c'est même sûr, mais on vous le rappelle, il y a le film Citizen 4 qui est passé très très rapidement au cinéma d'Evreux. Il y a eu deux séances. Moi je l'ai vu à une de ces deux séances sur toute l'action de Edward Snowden par rapport à, qui a donc disons
lanceur d'alerte.
Voilà, qui a lâché le morceau pour parler simplement vis-à-vis
de la surveillance
d'internet États-Unis. Qui se livre par la NSA, etc. etc. Et donc, quand on vous parlait tout à l'heure du Patriot Act, c'est ça. Et effectivement, c'est une incursion directe dans notre vie privée et quelque chose qui est extrêmement inquiétant, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, restons vigilants, tout n'est pas joué et on ne laissera pas faire les choses dans l'état tel que ça se prépare à l'heure actuelle. Alors, on va peut-être faire une première pause musicale. Et après, on va revenir avec quelques bonnes nouvelles, témoignages et aussi un gros dossier sur la Syrie. Mais d'abord, quelques notes de musique. I feel the cracks in the pavement crumble in my back. As long as I'm not falling on my own, I'd hate to see you fall on your own, on your own. I feel the rain.
Flying through the air.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est le groupe d'Amnesty International Évreux. On continue notre heure d'information et de mobilisation autour des droits humains, comme tous les mois. On vient d'entendre Dene Moore. C'est une découverte que j'ai faite grâce à ma fille, hein, merci Amélie, que j'ai faite récemment, et un titre qui s'appelle Detonate et que je trouve qui est tout à fait bien fait. Voilà, c'est une opinion purement personnelle. Mais bon, on profite de l'émission aussi pour passer les morceaux qu'on aime bien, c'est sûr. Voilà. Il y a Renan qui me branle le CD en même temps. Voilà. Bah,
donc, je pense que c'est peut-être le moment de faire une ou deux bonnes petites nouvelles.
Voilà,
après
on va faire après ce dossier un petit peu pas compliqué,
mais sur la loi.
Voilà.
Mais c'est important
voilà.
de savoir.
Il fallait être un petit peu attentif, mais il faut être vigilant. Maintenant, c'est Renan qui va vous parler de bonnes nouvelles, comme à chaque fois, et on fera tout à l'heure avec lui aussi un appel à l'action, mais d'abord les bonnes nouvelles.
Minerai du sang, vote historique au Parlement européen. Tantale, tungstène, étain, or, ces minerais sont présents dans de nombreux objets de notre quotidien, de nos téléphones portables à nos voitures. Or, dans de nombreux pays, leur commerce a des conséquences dramatiques trop souvent ignorées. Le Parlement européen a aujourd'hui adopté une position courageuse en faveur d'un règlement obligeant tous les industriels, aussi bien ceux qui produisent et importent ces minerais que ceux qui les transforment, à s'approvisionner de manière responsable. L'exploitation des minerais utilisés dans de nombreuses applications technologiques peut contribuer à financer des groupes armés, voire des États responsables de graves violations des droits humains. En Colombie, en République centrafricaine et en République démocratique du Congo, ce commerce contribue à alimenter des conflits meurtriers et ce sont 9,4 millions de personnes dans le monde qui ont tout perdu en raison de ce type de situation.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement important. On oublie toujours effectivement que, par exemple, il y a un métal utilisé dans les téléphones portables à grande échelle, dont j'ai oublié le nom. Qui est produit principalement en République démocratique du Congo.
Dans des mines complètement
dans des mines, dans un état
sauvage, voilà
ouais. où les gens meurent écrasés sous des tonnes de terre à 300 mètres sous terre. Enfin, il y a eu des reportages à la télévision d'ailleurs qui faisaient. J'en ai vu un qui glaçait le sang, vraiment, il n'y avait pas d'autre terme. Et il y a un tas de gens dont les droits effectivement sont plus que bafoués, quoi. Ils sont carrément niés depuis le début jusqu'à la fin pour extraire ces métaux qui, bien sûr, sont payés à coups de lance-pierre. Et au départ, alors que les téléphones après sont vendus très cher, mais bon, il y a des intermédiaires après. Et donc, c'est une des premières lois qui fait, enfin, une des premières recommandations. Je ne sais pas si on peut, si c'est vraiment une loi. Si c'est une loi qui a été votée.
C'est une loi.
Par le Parlement européen qui va obliger. Alors là, il faut être vigilant aussi sur son application. Hein, ne soyons pas naïfs. Hein, il va falloir effectivement ne pas s'endormir en disant on a gagné. On a gagné une première étape, mais il faudra après que la loi soit mise en application, qui va obliger les industries qui sont ressortissantes européennes et qui utilisent ces matériaux-là à être extrêmement vigilants sur l'origine de ces matières premières et les respects des droits humains à la base. C'est quand même un minimum. Voilà.
Alors moi, j'ai un petit... tout à l'heure, tu m'as fait un petit quiz en début d'émission. Donc là, je te rends un peu la main. Alors,
J'ai peur, je ne suis pas au courant de la question à Renan. Attention, avez 30 secondes pour répondre.
C'est lequel le prochain État américain à abolir la peine de mort?
Ah, le Nebraska.
Bien joué.
Oh là là, trop bien. J'ai même pas eu le temps de répondre.
Je pensais vous avoir ce soir.
Ah, c'est une histoire entre deux, là. Je laisse faire.
J'ai lu l'information ce week-end.
Alors,
voilà.
Le 20 mai, les législateurs du Nebraska ont voté en faveur d'un projet de loi abrogeant la peine de mort. Le Nebraska est ainsi en passe de devenir le 19e État à abolir la peine capitale. Le texte a obtenu suffisamment de votes pour contourner le veto que le gouverneur Ricketts avait promis d'y opposer. Les législateurs ont fait un grand pas en avant en matière de respect des droits humains. Plutôt que d'aller à contre-courant, le gouverneur Ricketts fera bien de participer à ce moment historique en approuvant ce projet de loi. Les États qui appliquent encore la peine de mort devraient suivre l'exemple du Nebraska et éliminer définitivement ce châtiment cruel et inhumain.
Tout à fait. Si on a le temps tout à l'heure, mais c'est pas gagné, on parlera un petit mot sur la peine de mort. Il y avait aussi un dossier dans la chronique de ce mois-ci.
On en regardera pour une prochaine fois.
Mais de toute façon, ça continue à aller dans le bon sens. On peut juste dire un petit mot rapide, c'est que c'est un peu contradictoire au niveau de la peine de mort. À la fois, il y a de plus en plus d'États qui abolissent la peine de mort de fait ou de droit. Et surtout de droit, c'est ça qui est important. Renan, vous citez le Nebraska. Donc, il y a presque la moitié des États-Unis à l'heure actuelle ont aboli la peine de mort. C'est déjà important. Mais en parallèle, les États qui l'utilisent de plus en plus. Donc c'est contradictoire. Il y a de moins en moins d'États qui l'utilisent, mais ceux qui ont recours à la peine de mort le font de plus en plus à grande échelle. ou reviennent sur des exécutions, disons, importantes.
Moins
en
d'État,
nombre.
Plus de condamnations.
Voilà, voilà, tout à fait. On peut résumer comme ça. Et ça me revient, on fait des digressions, mais ce n'est pas grave. Ça me revient le nom du métal qui est utilisé pour les téléphones portables et qui tue énormément de gens, qui tue, ça c'est vrai, énormément de gens aux République démocratique du Congo. Ça s'appelle le coltan.
Exact. Coltan, tout à fait.
À l'étage, une bonne nouvelle encore concernant le Guantanamo. Bah, j'en ai deux concernant Guantanamo. Donc, après plus de 12 ans de prison, dont 10 à Guantanamo, suivi d'un transfert au Canada, le 7 mai 2015, le tribunal de l'Alberta a statué sur sa remise en liberté. Omar Khadr était le plus jeune détenu de Guantanamo, donc il a été libéré. Et donc, la deuxième concernant Guantanamo, c'est 40 000 signatures pour le retour au Royaume-Uni d'un détenu de Guantanamo. Les signatures ont été remises au gouvernement britannique pour lui demander de tout mettre en œuvre pour que Shaker Hammer, dont on a déjà parlé...
Voilà, j'allais poser un quiz aux auditeurs. Parce que Shaker Hammer...
rendre immédiatement au Royaume-Uni et puisse enfin... Donc, il y a 40 000 signatures qui ont été remises au Royaume-Uni.
Voilà, d'accord. Mais il n'y a toujours pas de résultat.
Non, il n'y a pas de résultat, mais c'est comme une avancée.
C'est la deuxième fois qu'on fait des campagnes importantes de signatures.
Et maintenant, c'est entre les mains de David Cameron, quelque part.
Donc, il a été réélu, il ferait bien de faire quelque chose quand même.
Oui. Le petit message de deux.
Enfin, oui, parce qu'on lui a dit
avant... Et David, si tu nous écoutes...
À un moment, on s'est dit, est-ce que ça va encore être lui? Est-ce qu'on continue? Et là, c'est encore lui. Alors, enfin, il compte toutes les signatures.
Tout à fait. Et n'oublions pas qu'Obama avait pris comme décision au début de son tout premier mandat, et il est arrivé presque à l'échéance du deuxième, de fermer Guantanamo. Les signatures des politiques n'engagent que ceux qui les écoutent. Bah,
quand
on
voit qu'il vient d'accepter des puits de pétrole là-bas, mais bon,
c'est autre chose. Bon, allez.
Passons à la Syrie. Syrie, donc toujours le drame en Syrie, inutile de vous en parler, effectivement. On va vous faire part de témoignages. C'est d'autant plus parlant que la théorie.
On a choisi, vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur le site d'Amnesty, des témoignages, des récits de vie et de vie de gens qui souffrent au quotidien dans leur famille, de la situation en Syrie que, effectivement, on essaye, nous, d'imaginer, on essaye même d'avoir avoir des pensées pour eux, mais quand c'est dit, quand c'est raconté, là, on est vraiment dans la réalité. Alors, depuis de nombreuses années, comme tout le monde le sait, les Syriens vivent sous une chape de plomb. La pauvreté est omniprésente et tout le monde se méfie de tout le monde. Malgré les difficultés et les privations, une famille est heureuse à Alep. On va vous parler de l'histoire de cette famille. Bon, elle est juste représentative de la vie de plein d'autres personnes. Cette famille est heureuse de vivre ensemble. Et la guerre arrive et tout est détruit. La famille se disperse. Alors comment on a pu avoir ces témoignages-là? C'est parce que l'un des fils, Fahem, lui, est en France pour continuer ses études. Il est arrivé à Nice en 2011, après avoir étudié la langue et la culture française à Alep. Et bien qu'il ait actuellement échappé au conflit, il le vit tous les jours de loin à travers sa famille. Il va nous raconter la dure réalité de la guerre et la situation de ses proches. Attention, c'est Didier qui fait Fahem.
Oui, alors c'est moi qui vais prêter ma voix effectivement à Fahem. Nous avions l'habitude de vivre ensemble, de manger ensemble. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que c'est d'être 14 personnes à table. C'était des moments magnifiques pendant le mois du Ramadan, quand nous étions tous réunis au moment où le soleil se couchait. On avait l'impression de manger avec tous les Syriens, avec 23 millions de personnes.
En 2012, Fahem apprend que l'armée syrienne gouvernementale veut attaquer Alep. Et il apprend aussi que le gouvernement a bombardé la maison de son voisin. Alors, dit-il, mon père a décidé de tout quitter.
J'ai appelé ma famille pour leur dire qu'ils devaient partir parce que l'armée syrienne allait pénétrer dans Alep. Ils m'ont appris qu'un avion avait déjà largué une bombe. Elle était tombée sur la maison de notre voisin. La déflagration avait été tellement forte que la nôtre avait tremblé. Ils ont eu très peur et c'est ce jour-là que mon père a pris la décision de tout quitter.
Alors il va vous parler de ses frères.
Voilà. Maman, lui et les petits se sont rendus en Turquie dans une ville qui s'appelle Mersin. Ils ont franchi la frontière de manière irrégulière parce qu'il y avait beaucoup trop de monde vers les passages obligés. Ils ont dû payer un passeur. Mes parents retournent en Syrie quand un membre de notre famille meurt. Ma mère a 53 ans et mon père en a 63. Ils ne sont pas très âgés, mais ils sont malades parce qu'ils ont trop travaillé dans leur vie. Mon père a eu un AVC, un accident cardiovasculaire, avant que je ne parte et ce n'est pas facile de trouver les médicaments dont il a besoin aujourd'hui. Ma mère souffre de diabète. C'est très difficile de se soigner en Turquie. Quand ça se calme un peu, ils font des allers-retours entre la Turquie et la Syrie. Alep n'est qu'à 400 km de là où ils habitent. Mon père et ma mère sont très attachés à la Syrie. Mais quand ils y retournent, c'est toujours pour une raison triste. C'est quand quelqu'un de la famille meurt. Mes petits frères et sœurs ont entre 13 et 18 ans. Ils vont à l'école en ce moment, mais ce n'est pas une école officielle. Ils apprennent tant bien que mal à lire et écrire. En Turquie, les écoles n'acceptent pas les enfants syriens et il est difficile de se déplacer.
Alors la famille est éclatée. La famille se retrouve dispersée aux quatre coins de la Méditerranée. Fahim n'a pas revu certains de ses frères et sœurs depuis plus de 4 ans. Et il va pouvoir aussi raconter l'histoire d'un autre frère. On va pouvoir vous donner un témoignage après.
J'ai un frère qui s'y est repris à 3 fois pour traverser la Méditerranée. Il s'est fait refouler plusieurs fois par les gardes-côtes. Heureusement, il a pu aujourd'hui rejoindre le Danemark où il a obtenu le statut de réfugié. Et puis il y a tout le monde, il y a que tout le monde appelle Abdou et qui vient de me rejoindre ici en France après un périple de 2 ans. Excusez-moi d'avoir bafouillé un peu.
Oui, non, mais c'est une petite faute de frappe, oui, je pense, sur notre texte.
Oui, tout à fait. En Syrie, il a fait de la prison et il a connu le traitement qu'Assad réserve à ses prisonniers. Assad, c'est le président, notre ami président de la Syrie. Nous trois, nous sommes tirés d'affaire, mais les autres membres de la famille sont en danger de mort et ça nous mine. Nous ne pensons qu'à ça.
Alors justement, le gouvernement d'Assad bombarde avec des espèces de bombes, avec des munitions dedans, des morceaux de métal, et les bombes, elles arrivent sur les civils, sur n'importe qui. Il n'y a pas du tout de choix.
Une de mes sœurs est restée en Syrie avec son mari et ses enfants. Ils n'ont pas les moyens de partir. Ils sont dans une zone assez dangereuse et ils risquent leur vie à chaque instant. Ils s'attendent à mourir, mais ils ne savent pas quand. Je vous lis la phrase quand même, c'est important. Ils s'attendent à mourir, mais ils ne savent pas quand. Et après, on se demande pourquoi les gens, effectivement, cherchent à se protéger. C'était un aparté. Un autre de mes frères est également resté en Syrie, dans une ville différente. Il a dû quitter Alep, alors que l'atelier dans lequel il travaillait avec mon père et mon grand frère a été détruit par une bombe. Elle a été lâchée par un avion de l'armée syrienne. Ce ne sont pas vraiment des bombes, en fait, mais des sortes de bidons de fer dans lesquels ils mettent de tout. Des liquides inflammables, de la ferraille, pour faire le plus de dégâts humains possible. Ils envoient ça sans cibler. Ça tombe où ça tombe, sur les civils en général. Une autre de mes sœurs a traversé toute la Syrie du nord au sud pour aller en Jordanie avec son mari et ses enfants dans un petit village.
Alors effectivement, Fahem s'inquiète aussi pour l'état de santé de sa famille. Car on peut imaginer la Syrie sans médecins, sans hôpitaux, et surtout pour une de ses sœurs.
Elle risque de mourir d'un moment à l'autre. On lui a enlevé un rein après une infection et elle a désormais une injection au deuxième. Elle est dans un état critique. Je ne sais vraiment pas quoi faire. S'il faut la faire venir en France et comment y parvenir. Ou si on doit la faire soigner en Turquie. Mais là aussi, on ne sait pas comment s'y prendre. Je me cogne à un mur de difficultés et d'indifférence. Selon moi, elle devrait rentrer dans la catégorie des réfugiés vulnérables. Je sais que le HCR, le Comité pour les réfugiés des Nations Unies, a demandé aux États de l'Union européenne d'accueillir plus de réfugiés syriens en privilégiant ceux qui sont en situation de vulnérabilité. Mais je crois qu'ils font la sourde oreille. La France a dit qu'elle allait en accueillir 1000, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ma sœur n'a aucune chance d'en faire partie, et même si c'était le cas, elle prendrait la place d'une autre personne qui en aurait autant besoin qu'elle. S'il vous plaît, il faut nous aider. C'est une question de vie ou de mort.
Alors là, c'est le témoignage donc de ce jeune homme étudiant à Nice. Et on peut avoir aussi l'histoire de son frère Abdou dont il parle. Donc Abdou, lui, quand il manifestait en Syrie en 2012 contre les violences perpétrées par le gouvernement, a été arrêté et jeté en prison. Il a été torturé puis relâché. Il a décidé de quitter la Syrie pour fuir la violence et de vivre dans un pays des droits humains. Alors lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'aurait jamais imaginé que les violences atteignent de telles proportions. Il a été battu, humilié en prison. J'ai eu de la chance. Beaucoup ne sortent pas vivants de ces prisons d'Assad. Je n'étais plus en sécurité, il me fallait partir. C'est l'armée syrienne libre, c'est-à-dire les rebelles qui m'ont aidé. Et c'est en France que je voulais aller. C'est un pays qui me plaît. Et mon frère, Fahem, y est déjà installé. Ce que je cherchais en France, c'est surtout la paix. Je me suis rendue d'abord en Turquie, mais j'avais nulle part où aller. Alors j'ai dormi pendant 2 jours dans un parc municipal. J'ai été arrêtée par la police turque. C'est interdit de dormir dans un endroit public. Il me fallait absolument travailler si je voulais continuer le voyage, mais je n'avais rien trouvé en Turquie. Je n'ai eu aucune aide du gouvernement turc, c'est un pays cher. Alors j'ai décidé de partir à nouveau. Je suis allée au Liban, où vivait un de mes amis. J'ai appris que le pays venait de fermer ses frontières. C'est au Liban qu'il y a le plus de réfugiés de Syrie. Je crois qu'un habitant sur quatre de ce petit pays est syrien. On peut comprendre un tel afflux d'étrangers et qu'on peut comprendre que cela pose des problèmes aux Libanais. Il y avait du travail au Liban, mais pas mal de postes à pourvoir. Mais quand ils apprennent que j'étais syrien, ils me refusaient le travail. On était en hiver, je n'avais pas de travail, pas d'argent, j'étais obligé de dormir dans la rue. Heureusement, j'ai rencontré un type de Damas qui m'a aidé. Et à ce moment, j'ai décidé de partir. J'ai pu arriver jusqu'en Égypte chez un ami de ce copain. Celui-ci m'a très bien reçu. J'ai eu un logement. Alors on y est, Syrie, Turquie, Liban, Égypte. Mais à ce moment-là, j'ai aussi pu repartir en Turquie car mes parents restaient en Syrie, traversaient une période difficile. Pour les aider, j'ai trouvé une place dans une fabrique de chaussures. J'ai mis de l'argent de côté et j'ai pu leur permettre de quitter la Syrie. Je suis restée encore un an en Turquie. Je rêvais de venir en France et je suis enfin partie en 2013 avec des passeurs. Les passeurs, c'est autre chose. On peut tomber sur des voleurs, sur des tueurs, des arnaqueurs, des menteurs. C'est le jeu de la vie ou la mort. On ne sait pas si on va avoir à qui avoir affaire. Je pourrais écrire un livre entier sur les passeurs. À partir d'Ankara, la capitale de la Turquie, on peut partir en Europe pour 6 000 euros. Il faut mettre l'argent dans un bureau que l'on appelle le bureau de confiance. On y dépose l'argent, on reçoit un code qu'on donnera aux passeurs. On a vite compris que les passeurs et les bureaux de confiance, c'était les mêmes. Alors sur le bateau qui partait, il y a déjà le bus qui nous a emmenés. On était dans des petits bateaux. Ils étaient prévus pour 20 personnes et on était 40. On a été arrêtés par les gardes turcs, mais j'ai réussi à m'enfuir. J'ai couru pendant 2 heures. J'avais tellement peur de me faire attraper par la police. Je ne voulais pas laisser mes empreintes, car on m'avait dit que c'était dangereux à cause de la Convention de Dublin. Selon la Convention de Dublin, en Europe, les demandeurs d'asile ne peuvent demander d'asile que dans le premier pays qu'ils atteignent. Et il aurait donc été impossible à Abdou de rejoindre son frère. Je suis rentrée à Istanbul après avoir donc échoué cette tentative-là. Et j'ai pu repartir. Et de nouveau, j'ai dû payer le passeur. Et quelle angoisse quand on part. Là, c'était un grand bateau. J'avais de la chance par rapport aux autres. Pour moi, ça allait. C'était la première fois qu'on avait un bateau aussi grand. On avait même à manger. Il y avait 600 personnes à bord, des Africains, des Iraniens. Les vedettes de la police tournaient autour de nous. La police italienne est arrivée assez vite, mais elle ne faisait rien, car les gens nous ont laissés sur le bateau. Et heureusement, on a été quand même sauvés par la police italienne. Alors moi, ils ne savaient pas trop quoi faire de moi, mais je me suis dit que si je restais en Italie, je n'allais jamais retrouver mon frère. Donc j'ai réussi à encore m'échapper sur le sol italien. Et là, j'ai fait très attention toujours de ne pas laisser mes empreintes pour qu'on ne dise pas qu'il fallait que je m'arrête en Italie. Et j'ai fait connaissance d'une fille italienne d'origine tunisienne qui m'a aidée. Elle m'a laissé dormir chez elle. Et le lendemain, je suis arrivée à la frontière française et j'ai appelé mon frère. Et ils sont venus me chercher. Voilà l'histoire d'Abdou.
Je pense que cette histoire, c'est un très bon résumé de différentes choses qu'on a déjà dit dans les émissions et de ce qui est tout ce qui est raconté aussi sur le site d'Amnesty, entre autres, sur effectivement pourquoi les gens cherchent à se réfugier en Europe. Tout y est, en fait, dans cette histoire, effectivement, la peur sur place dans un pays qui est déchiré par la guerre, les massacres, les passeurs qui profitent de la situation, etc. Il explique bien qu'effectivement, ce ne sont pas les passeurs qui créent le besoin pour les gens de franchir la Méditerranée. C'est parce que les gens cherchent à se protéger, les passeurs n'étant qu'entre guillemets des parasites qui utilisent cette
des situation. Des profiteurs de la misère humaine.
Des profiteurs, voilà, c'est moins méchant que parasite. Des profiteurs de la misère humaine. Mais ce n'est pas eux qui font appel, qui créent le besoin. Absolument pas, contrairement à ce que disent certains partis politiques. Et ce sont des gens, effectivement, comment rester indifférent quand on lit ça? Comment se dire que ces gens-là, effectivement, ils cherchent encore une fois à sauver leur
c'est
vie.
C'est humain, voilà. C'est humain de vouloir partir et d'être un tout petit peu moins mal ailleurs.
Voilà. Tout à fait. Dans des conditions qui sont absolument épouvantables. Et quand on voit le parcours du combattant sans jeu de mots que représente ce témoignage, c'est absolument hallucinant.
Et là, on peut dire que ce sont des jeunes qui ont vraiment une force de vie. Et on peut imaginer, malheureusement, le sort de plein d'autres personnes âgées, fragilisées, malades, qui, elles, malheureusement, vont... vont sans doute mourir dans des conflits comme ça, sans possibilité de s'en sortir.
Voilà. Mais dis donc, Edith, le temps passe, il va falloir qu'on continue. Tu avais dit qu'on lirait quelques petits chiffres quand même.
Voilà, quand même, parce
suffisamment éloquents sur la situation des Syriens.
Abdoul parle du Liban. Donc le Liban accueille 1 100 000 réfugiés de Syrie. La population du Liban du fait de cette présence, a augmenté de 26%. Le nombre de réfugiés est 725 fois supérieur à l'ensemble des réfugiés de Syrie présents ou en Europe.
Oui.
Vous avez entendu ? 725 fois plus supérieur qu'en Europe.
Au Liban,
simplement
en Europe.
Pour le tout petit pays.
Voilà. Et donc, on vous rappelle qu'on va en reparler tout à l'heure, mais que le 20 juin, on appellera une grande mobilisation dans Évreux. On vous en reparlera, mais de soutien au peuple syrien. Voilà. Une petite action urgente.
Allez au travail.
Et puis quelques notes de musique et on conclut l'émission quand même parce qu'il est grandement.
Alors pour l'action urgente de ce mois-ci, on part au Paraguay. Le 21 avril 2015, une fillette de 10 ans est arrivée accompagnée de sa mère à l'hôpital mère-enfant de la Trinité à Asunción, la capitale du Paraguay, en se plaignant de douleur à l'estomac. L'examen a révélé qu'elle était enceinte de 21 semaines. Cette grossesse résulte d'un viol commis par le beau-père de la fillette. Le directeur de l'hôpital a reconnu publiquement que la vie de l'enfant est en danger, bien qu'elle soit en bonne santé. Quelques jours plus tard, le ministère public a ordonné l'admission de la fillette à l'hôpital de la Croix-Rouge pour y passer des examens. Malgré le risque élevé que représentent ces grossesses et la requête de la mère de l'enfant, les autorités n'ont pas encore autorisé l'accès à une procédure d'avortement. Le 28 avril, la mère de la fillette a déposé une demande administrative à l'hôpital en réclamant une interruption de grossesse pour sa fille. Néanmoins, rien n'indique que l'hôpital envisage cette solution. Au contraire, selon les informations dont nous disposons, la fillette serait envoyée dans un centre pour jeunes mères. Au Paraguay, l'avortement n'est légal que lorsque la vie de la personne enceinte est en danger. Au terme de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours primer et les États sont tenus de garantir l'accès à une procédure d'interruption de grossesse dans une situation pareille. Donc, en fin de compte, si vous êtes intéressé par cette action, surtout, vous nous faites signe. La lettre coque, comme d'habitude, est déjà prête.
Est tout prête.
Parce que je vous rappelle quand même qu'elle a 10 ans.
Oui.
Elle s'est fait violer par son beau-père et donc on refuse l'avortement. Parce qu'il faut prouver qu'en fin de compte, qu'elle est en danger.
Oui, là aussi, c'est assez épouvantable. Il n'y a même pas de mot.
Signez et envoyez la lettre.
Donc, vous nous envoyez vos coordonnées sur amnesty.evreux@gmail.com et on vous renvoie la lettre à envoyer aux autorités. Quelques notes de musique ?
Catch. The band is playing Dixie. A man's got his hand outstretched. Could be a faker. Could be the local priest. You know, sometimes Satan comes as a man of peace. We got the sweet gift of gab. He got a song of love that ever has been sung. Good intentions can be evil. Both hands be full of grease. You know, sometimes Satan comes as a man of peace. Well, first he's in the background. Sometimes Satan
sur l'antenne de Principe Actif, donc le groupe d'Amnesty International d'Evreux, et on vient d'entendre quelques mesures, on n'a pas tout entendu.
Désolé.
C'est pas grave. D'un extrait d'un disque qui a été sorti en soutien à Amnesty, Chimes of Freedom, on l'a déjà largement utilisé, mais on ne le
redit pas, nous.
Et qui s'appelle, le morceau s'appelle Man of Peace, c'est une chanson de Bob Dylan qui a été reprise par Joe Perry.
Alors voilà.
Donc,
On a parlé de quoi ?
On a parlé de beaucoup de choses.
Voilà, on a parlé de la loi sur...
Informatique et liberté, on pourrait dire. Ouais,
on a parlé du Burundi, on a parlé de la Syrie, voilà. De notre actualité. Voilà. Et à toi, Didier.
Et donc, on va vous rappeler, pour terminer l'émission, on va vous rappeler notre actualité locale. On avait commencé par ça, mais on va le redire, qui est très chargée dans le mois qui vient. On vous rappelle qu'après-demain, jeudi 28... à la maison de l'université, 2 place Émile Blondel, à Mont-Saint-Aignan, université de Rouen. Journée de débat et d'intervention sur des différents intervenants, professeurs de philosophie, sociologues, etc., etc., responsables d'ONG, sur la dignité en question, la dignité humaine en question. Donc de 9h30 à 17h30, si vous êtes libre, venez, c'est bien sûr ouvert et gratuit, à la maison de l'université, 2 place Émile Blondel.
Et t'as oublié de dire que c'est l'initiative quand même de notre ami Thierry
Houle, tout à fait,
voilà.
qui fait partie du groupe d'Evreux, même si maintenant il est exilé à Bernay,
qui nous a concocté le programme, et c'est une initiative qui est soutenue par la région d'Amnesty de Haute-Normandie.
Tout à fait.
Et des intervenants de qualité.
Voilà. Donc ça c'est le 28 mai. Le 1er juin, le lundi qui suit, à l'initiative du groupe de Louviers, une rencontre débat sur notre liberté d'expression est-elle en danger. Au cinéma Le Grand Forum, là aussi c'est ouvert et gratuit, avec l'intervention de Jean-Marie Cavada, que vous connaissez sans doute, et de Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France. Donc on vous rappelle le thème, notre liberté d'expression est-elle en danger, avec la projection du film documentaire,
Fini
de rire, à 19h,
et
à 20h, conférence débat. Une soirée passionnante là aussi, le 20 juin, le samedi 20 juin. On vous appelle, on vient de parler longuement de la Syrie, on vous appelle à un rassemblement, on vous en dira plus par voie de presse.
C'est à Évreux, là.
Et par communiqué, c'est à Évreux, sans doute devant la médiathèque, une journée de soutien, enfin une après-midi de soutien au peuple syrien.
Écoutez, Principe Actif, ils nous le rappellent. Voilà,
Principe
Actif
vous en parlera, ça paraîtra dans la presse en temps et en heure. Mais donc, réservez déjà votre samedi 20 juin,
votre après-midi. Pensez à tous ces gens qui veulent partir et qui ne peuvent pas. Et allez signer aussi, on a oublié de le dire, la pétition pour notre président pour qu'il y ait plus de réfugiés syriens en France.
On vous rappelle que pour l'instant, la France est engagée à en accueillir 500. 500 par an, 1000 en deux ans.
Oui. Et on rappelle combien le Liban
ridicule,
déjà
le ridicule.
Combien le Liban plus.
Alors, le Liban,
je crois que c'est au coût de millions, je crois.
La population a augmenté de 26% et il y a 725 fois plus de réfugiés au Liban que dans toute l'Europe.
Eh bien,
voilà. Autre actualité, parce que ça terminera l'année pour nous, enfin l'année avant le break
l'année,
d'été.
Avant l'été.
Au Festival Rock, on y sera effectivement. Donc c'était quand le Festival Rock, Renan, tu nous le dis ?
Ça date de 26-27, un truc comme ça.
C'est vrai ? C'est vrai ? T'as raison.
26-27
Qu'est-ce qu'on va dire maintenant ? On va parler des sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais qu'on abordera dans les prochaines émissions, sans doute la prochaine ou celle d'après. Il y a une information intéressante sur une avancée par rapport à la restriction de la torture, un vote qui a été fait par l'ONU. Et on va vous en parler. On va vous en parler la prochaine fois parce que là, on n'aura pas le temps.
On n'a pas le temps.
Mais c'est une avancée positive.
Et puis le Qatar, il y a un dossier qui est sorti sur la situation des travailleurs au Qatar. Et ce n'est pas terrible, terrible.
On vous reparlera aussi de peine de mort. C'est un sujet toujours difficile, mais pour vous parler de l'évolution en bien et en moins bien par rapport à la peine de mort, c'est important de l'avoir à l'esprit.
Et on va les retrouver quand, les gens qui nous écoutent ?
Et notre prochaine émission, donc je l'avais noté, le temps que je retrouve la
page. Le mardi 30 juin.
C'est mardi 30 juin, prochaine émission, dernière émission avant le break d'été. À moins qu'on décide de faire des émissions pendant l'été.
Dites-nous ce que vous en pensez.
Pourquoi pas ?
Et voilà, on a reçu un mail de Principe Actif nous disant si vous voulez être présent pendant l'été, nous le dire. Donc on va réfléchir.
Des thématiques peut-être.
Pourquoi pas ? On verra s'il y a des gens qui sont disponibles dans le groupe pendant l'été.
Allez,
et sinon, rendez-vous le donc 30 juin. Et à bientôt.
Partout
au revoir
monde,
à tous.
Allez, bonne soirée.
L'Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.